le journal de Thomas Nagy.
Bonjour, changement en perspective pour le dépouillement des résultats des élections fédérales du 22 octobre prochain. Pour la première fois, l'ensemble des communes jurassiennes devra utiliser le même système de dépouillement informatisé. Détail dans quelques instants. Une candidature romande à la succession d'Alain Bercel, le conseiller national vaudois Roger Nordmann a annoncé ce matin se porter candidat. Il est le cinquième à le faire et le premier roman. Une démarche qui suscite la surprise alors que le siège semblait promis à un alémanique. Young Boys à la recherche de ses premiers points européens de la saison. Les hommes de Raphaël Vicky affrontent l'étoile rouge de Belgrade ce soir en Serbie dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des champions de football. Mais pour y parvenir, il faudra faire abstraction des 50 000 spectateurs serbes attendus dans le stade. La grisaille matinale a laissé place à une journée bien ensoleillée avec des températures douces jusqu'à 19 degrés en pleine et 15 sur les hauteurs. Les températures qui vont grimper durant le reste de la semaine. Les élections fédérales du 22 octobre marqueront une première dans le Jura. Le dépouillement sera entièrement informatisé. Il s'agit d'une obligation pour toutes les communes. Celles-ci ont été formées pour saisir les résultats dans le logiciel mis gratuitement à disposition par le canton et qui a déjà été testé pour les votations de l'année passée. Les précisions de Laura Frein, co-responsable des droits politiques à la Chancellerie d'État.
C'est une nouvelle solution de gestion des élections qui s'appelle WeWork. Et puis, la chancellerie, elle prépare les données de l'élection, donc les candidats, les listes, les apparentements. Ensuite, elle actionne la saisie de test pour les communes qui peuvent s'entraîner. Ensuite, la chancellerie, elle remet à zéro le scrutin avant l'élection. Et puis, elle actionne la saisie productive. Et comme ça, les communes, elles peuvent directement saisir leurs résultats. La chancellerie, elle les valide par la suite. Et puis, les résultats, ils seront directement publiés sur l'application.
Quel est l'objectif derrière cette obligation pour les communes ?
Plus de sécurité, moins de risques. Avant, les communes, elles communiquaient leurs résultats par téléphone. Et puis, maintenant, avec cet outil de gestion informatisé, il y a moins de risques d'erreur. Et puis, en plus de cela, les règles électorales, elles ont été intégrées dans l'application. Donc, les bulletins rentrés seront vérifiés également.
Laura Frein qui répondait à Émilie Moumentaler, elle nous expliquera comment les communes ont été accompagnées dans ce processus d'informatisation du dépouillement dans le journal de 18h. Les élections fédérales toujours, pour les nuls ou les désintéressés ou simplement pour celles et ceux qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire. C'est chaque jour de la semaine sur RFJ. À l'approche du grand rendez-vous fixé au dimanche 22 octobre prochain, les citoyens les plus zélés vont se renseigner sur les candidates et candidats. Une tâche moins ardue quand on peut savoir avec qui fricotent ses prétendants, comme nous l'explique Léonie Adrover.
Comment s'assurer qu'une fois à Berne, les élus travaillent bel et bien dans l'intérêt de leur électorat ? Eh bien, c'est une question de confiance. Mais parce que la confiance est plus solide quand elle peut s'appuyer sur des lois, la Suisse impose aux parlementaires de déclarer leur lien d'intérêt. Par lien d'intérêt, il faut comprendre les activités professionnelles, les mandats au sein de sociétés, établissements ou fondations, ainsi que les fonctions exercées dans des organes de la Confédération. En gros, l'administration exige de savoir pour qui roulent les parlementaires, qui sont tenus d'annoncer tout ça au début de leur mandat, puis chaque année, en précisant s'ils sont payés pour ces activités. Le public a ensuite accès à ces données. Le savoir. C'est bien. Utiliser cet accès, c'est encore mieux. En se promenant sur le site du Parlement, parlament.ch, on peut donc consulter ces registres des intérêts. Il y en a deux, un pour le Conseil des États et un pour le Conseil national. On y découvre qui est rémunéré par un assureur maladie, qui touche de l'argent de la part d'un fournisseur d'électricité, un conseil d'université ou un établissement bancaire, mais aussi qui siège gratuitement au sein de tel ou tel lobby ou association. Autant d'informations qui éclairent sur les accointances des élus et par ricochet sur leurs engagements et leurs convictions. Vous admettrez que ces détails peuvent être utiles à connaître avant de voter. Bon, il y a quand même un hic et même deux hic. Le premier, c'est que personne ne prend la peine de vérifier les déclarations des élus. Le second, c'est qu'avant d'être élus, les candidats n'ont aucune obligation de révéler leur fréquentation. Ce qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, comment s'assurer qu'une fois à Berne, les élus travaillent bel et bien dans l'intérêt de leur électorat ? Eh bien, c'est une question de confiance.
Et on retrouve Léonie Adrover demain dans la matinale pour évoquer cette fois le système électoral en vigueur dans le Jura pour ces élections fédérales. Et le canton du Jura a été touché cet été par de nombreux vols par effraction, principalement dans le district de Dolémont et en Ajoie. C'est ce qu'indique la police cantonale ce matin. Deux séries ont été révélées. Dans la première, forte d'une vingtaine de cas, les auteurs ont visé des buvettes et autres installations sportives à Joulotte. Dans la deuxième, plus de 20 méfaits ont été commis dans des commerces, restaurants et bars à Dolémont et Porrentruy. De nombreuses identifications ont été établies sur les deux séries. Plusieurs personnes sont en détention préventive. La police relève une chute des cambriolages depuis ces interpellations. Un cinquième homme socialiste entre en scène pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral. Le vaudois Roger Nordmann, de 50 ans, politicien professionnel, a présenté ses motivations ce matin à Berne. S'exprimant en français, en allemand et en italien, il se considère comme un politicien national, disposé à bâtir des ponts et à trouver des solutions dans l'intérêt de tous. Roger Nordmann explique sa motivation à briguer un siège au Conseil fédéral.
Principalement parce que je veux servir mon pays. J'estime qu'on a des gros défis devant nous en matière démographique, un vieillissement démographique, d'avoir suffisamment de personnes, en matière de santé, l'équité dans le financement et l'accès aux soins dans un moment où il manque de personnel. Bien entendu, en matière de climat et d'environnement, le point crucial, c'est la répartition de l'effort. Et bien entendu aussi en termes européens, puisqu'il faut qu'on rénove nos relations avec l'Union européenne. Et ça, c'est un défi compliqué parce qu'il faut trouver des solutions qui conviennent à l'Union et qui conviennent à nous. Donc moi, je suis disposé à m'engager dans ce domaine. Je me mets à disposition. C'est une proposition.
Tout indiquait que ce poste devait revenir à un alémanique. Pourquoi cette candidature romande ?
Moi, je me considère comme un politicien suisse. J'ai toujours agi dans toute la Suisse. C'est vrai que je suis un roman. J'ai une langue maternelle française. J'ai grandi dans le canton de Vaud. Je suis élu dans le canton de Vaud. Mais je me suis toujours engagé pour toute la Suisse, dans toutes les régions. J'ai aussi appris les langues nationales. J'essaye aussi d'avoir toujours un discours pour l'entier du pays. J'étais aussi président d'un groupe, c'est une fonction nationale. Même si je suis tout à fait conscient que ça pourrait être un critère rédhibitoire.
Quatre autres prétendants socialistes se sont déclarés pour le Conseil fédéral. Le Zurichois Daniel Josic, le Bernois Mathias Ebischer, le Ballois Beat Jans et le Grison Jon Pult. D'autres candidatures sont possibles à déposer jusqu'au 29 octobre. L'élection aura lieu le 13 décembre. Une majorité de Suisses soutient la création d'une caisse maladie unique. C'est ce que révèle aujourd'hui un sondage diffusé par le journal Le Temps, une semaine après l'annonce d'une hausse moyenne de 8,7% des primes pour l'an prochain. Les Suisses refusent cependant de toucher au catalogue des prestations. Par ailleurs, les sondés approuvent à 58% l'idée d'ajuster les primes en fonction du revenu. Dans l'actualité à l'étranger, l'Italie est sous le choc. 21 personnes sont mortes hier soir à Venise dans un accident de bus. Le car qui fonctionnait au méthane est tombé d'un pont et a pris feu selon les autorités de cette ville mondialement connue. Une vingtaine de blessés sont également à déplorer. Les précisions de notre correspondant en Italie, Antonino Gallofaro.
14 victimes doivent encore être identifiées. Ces personnes pourront être reconnues grâce à leur empreinte dentaire. Elles sont en effet mortes brûlées. Le bus hybride alimenté au méthane a pris feu après s'être écrasé. Au total, on dénombre 21 morts, dont 5 Ukrainiens, un Allemand et le chauffeur du bus, un Italien. Parmi ces victimes, il y a 2 mineurs. Tous les passagers étaient des touristes. Il y a aussi parmi les blessés des Français, des Espagnols, des Autrichiens et des Croates. Toute la nuit, des dizaines de pompiers, de médecins et toutes les ambulances de la région ont été mobilisées devant leurs yeux. Une scène apocalyptique qui laisse sans voix, pour reprendre les mots du maire de Venise, Luigi Brugnaro. Un deuil en mémoire des victimes a été décrété pour 3 jours. Ces personnes quittaient Venise, elles rentraient à Marghera, le port de la ville, quand leur bus a heurté accidentellement une barrière de sécurité. C'est en passant à travers qu'il a chuté du viaduc sur lequel il se trouvait. Une chute terrible d'une vingtaine de mètres. Les conditions de l'accident sont encore inconnues, mais les autorités avancent 2 hypothèses. Le chauffeur a eu un malaise ou il s'est assoupi. Une enquête a été ouverte.
RFJ, il est 12h24.
Sport.
Et Young Boys s'apprête à plonger dans une atmosphère bouillante et hostile. L'équipe bernoise affronte ce soir l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des Champions de football. Après une défaite initiale face à Leipzig, la troupe de Raphaël Vicky espère décrocher ses premiers points dans cette compétition européenne. Mais il faudra pour cela faire abstraction des 50 000 spectateurs serbes attendus dans la mythique enceinte du Maracana. Une ambiance chaude, Kibé et son défenseur Ulysse Garcia ont déjà découverte il y a 4 ans.
On sait que l'atmosphère ici, elle est différente et connue dans toute l'Europe, mais nous les joueurs, on aime ça, c'est pour ce genre de match qu'on s'entraîne et qu'on joue, donc quand on voit cette atmosphère, ça nous pousse aussi à aller à nos limites.
Il y a quoi comme sentiment quand on entre sur ce terrain, qu'on voit ces 50 000 supporters qui sont assez fous ici ?
Grand sentiment, parce que c'est la Champions League et on est surtout fiers de pouvoir jouer la Champions League et on sait surtout qu'ici, il y aura une atmosphère incroyable et on a un grand sentiment de vouloir bien faire, de prendre des points et c'est ça qui nous anime.
qu'est-ce qu'il va falloir faire pour aller chercher un résultat?
Il va falloir être très compact, très agressif et surtout très concentré. On sait qu'en Champions League, c'est les détails qui font la différence. Et en 2019, on a réussi à faire un égalité. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller chercher encore plus. Et c'est vrai qu'il faudra être très déterminé avec les chances qu'on aura.
Avoir déjà été ici, c'est un avantage?
Personnellement, oui, parce que l'atmosphère, ça ne va pas être quelque chose de nouveau. Mais je pense que je peux aussi apporter quelque chose à l'équipe en étant déjà la dernière fois.
Et des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Grégoire Pérou, Étoile Rouge, Young Boys, c'est à 21h à Belgrade. Réaction demain dans la matinale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Très belle journée.